franceinter.fr. La une du climat. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour.
On vous retrouve comme tous les lundis avec reporter.net pour d'abord un petit tour de l'actualité climatique. Quelles sont les nouvelles cette semaine? Trois principalement à retenir.
Ce matin, l'Organisation Météorologique Mondiale nous annonce qu'en 2014, nous avons battu, nous, c'est-à-dire l'ensemble des humains de la planète, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Quelques chiffres un peu difficiles à retenir, mais voilà, ils sont là. 397,7 parties par million de gaz carbonique en moyenne. Méthane, dont on a parlé récemment à la tête au carré, très importante, jamais oubliée, 1833 ppm en 2014. Et le protoxyde d'azote, à ne pas négliger non plus, il vient notamment de l'agriculture, 327,1 par milliard, c'est aussi très important.
Bon, et c'est pas bon évidemment comme chiffre. Autre information.
60 ministres de 60 pays, de très haut niveau, au niveau de Laurent Fabius, réunis pour deux jours à Paris pour préparer la COP21. Et puis, troisième nouvelle, un rapport important de la Banque mondiale qui vient d'être publié et qui dit « Si le changement climatique continue comme en ce moment, plus de 100 millions de personnes supplémentaires vont chuter en dessous du seuil de pauvreté d'ici 2030, c'est-à-dire de manière très rapprochée, notamment en Afrique. » Et l'enjeu essentiel, c'est en raison de l'impact sur l'agriculture du changement climatique.
Et à la une, justement, aujourd'hui, nous accueillons Lucas Chancel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur du rapport mondial sur les inégalités à l'École d'économie de Paris, chercheur à l'IDRI pour Sciences Po. Et votre travail est intitulé « Carbone et inégalités de Kyoto à Paris », mené avec l'économiste Thomas Piketty, est assez nouveau, justement, dans la répartition des responsabilités face à la crise climatique. Avant de vous entendre, Hervé, un résumé, au fond, de ce qu'il faut retenir de cette étude?
Tout à fait. Donc, l'étude de Lucas Chancel et de Thomas Piketty, économiste très célèbre pour ses travaux sur l'inégalité. Messieurs Chancel et Piketty se sont inscrits dans un domaine de recherche qui était un petit peu oublié, en tout cas un peu souterrain, au début des années 2000, avec notamment une publication de Chakravarti très importante en 2009. Ils font d'ailleurs dans leur étude une très bonne revue du travail antérieur. Et qu'est-ce que reprennent comme chantier Piketty et Chancel? Eh bien, l'idée qu'il ne faut pas raisonner seulement en termes de pays, les États-Unis, la Chine, la France, le Brésil, mais s'intéresser au niveau de revenus. Oui. C'est-à-dire en cherchant à vérifier l'hypothèse qu'il y a, en gros, plus vous êtes riche, plus vous émettrez de gaz à effet de serre, et donc d'analyser qu'est-ce qui peut se passer si on raisonne en termes de niveau de revenus sur l'ensemble de la planète. Une remarque rapidement, les inégalités entre les différents pays ont décru. En revanche, au sein des différents pays, de chaque pays, les inégalités se sont accrues et donc ça a des conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre et du coup les pronostics les prescriptions que ces économistes vont nous donner.
Lucas Chancel, on vous écoute maintenant. Pourquoi présenter ce travail aujourd'hui sous ce nouvel angle?
Eh bien, d'abord,
donc celle des inégalités sociales, en l'occurrence.
Tout à fait. Donc celle des inégalités sociales entre pays et non pas uniquement à l'intérieur des pays, excusez-moi, et non pas uniquement entre pays. Bien, tout d'abord, peut-être ces débats depuis quelques années sur la montée des inégalités à l'intérieur des pays, dont on a beaucoup discuté et dont les travaux de Thomas Piketty ont notamment contribué à faire monter le débat public sur ces questions. Et puis, évidemment, on est à la veille de la COP21 et donc c'est le moment de discuter de ces enjeux et c'est le moment notamment de relier deux questions qui n'ont pas forcément toujours été liées par le passé, c'est celle des inégalités sociales donc à l'intérieur des pays et la question environnementale. Donc voilà pourquoi nous on a fait ce travail avec une deuxième question qui est posée peut-être un peu plus technique, c'est celle de la question du financement de l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique, donc c'est lutter contre tous les dégâts déjà existants et on voit que ce financement est largement sous-approvisionné. Seulement 10 milliards par an, alors qu'il en faudrait, selon l'ONU, 150 milliards.
Vous le dites là, c'est 10% qui participent pour 50% des émissions de gaz à effet de serre. Qui sont-ils, ces 10% dans le monde?
Alors, ce qu'on met en avant, justement, c'est que ces 10%, ils sont donc ces 10% les individus les plus émetteurs. Donc, ce sont ceux qui émettent 2,3 fois plus que la moyenne mondiale. La moyenne mondiale étant à 6,2 tonnes de CO2 par an par personne. Pour donner un chiffre, un Français moyen est à environ 9 tonnes. Donc, ces 10%, eh bien, ça va être des individus à deux tiers venant des pays développés. et à un tiers venant des pays émergents et en développement. Donc oui. On retrouve déjà les classes aisées et supérieures des pays en développement et émergents.
Donc ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui le problème climatique c'est avant tout un problème d'inégalité sociale?
Alors ça veut tout à fait dire qu'on ne peut plus regarder uniquement le problème comme un problème de pays contre pays ou de bloc de pays contre bloc de pays.
Il faut regarder dans les pays.
Il faut regarder dans les pays. Et il faut regarder donc la distribution des revenus ou des émissions au niveau mondial, mais casser aussi les frontières entre pays.
Et en regardant dans les pays, vous allez même jusqu'à proposer des solutions. Par exemple, taxer fortement les billets d'avion en première classe. Pourquoi particulièrement le transport aérien?
Alors, le transport aérien, pour nous, répond à un double critère. C'est un marqueur à la fois d'un niveau d'émission relativement élevé et c'est un marqueur de richesse au niveau mondial. Donc, une taxe sur les billets d'avion qui pourrait être différenciée entre classe économique et classe business, c'est un moyen justement de faire contribuer les grands émetteurs et les émetteurs qui ont les moyens de contribuer à cet effort.
Ouais, c'est important dans le cadre d'une telle étude aussi d'associer des solutions très concrètes tout de suite pour ceux qui vont lire justement votre travail.
L'idée, évidemment, n'est pas uniquement que de produire des statistiques pour produire des statistiques, c'est de produire des statistiques pour essayer de venir nourrir un débat public.
Dans ce contexte, vous proposez plusieurs scénarios pour venir en aide à ce fonds de solidarité. Quelle serait la contribution de ces 10%?
Alors, donc, effectivement, notre travail nous permet de faire plusieurs pistes, plusieurs propositions. Donc, dans une des propositions, tous les émetteurs qui sont au-delà de la moyenne mondiale vont contribuer. Dans une autre proposition, c'est uniquement les 10% les plus émetteurs. Mmh. Et on a encore aussi une proposition où c'est les 1% les plus émetteurs. Nous, on n'a pas la stratégie idéale, mais on propose des pistes pour le débat, des éléments de cadrage. Et on voit que, par exemple, dans la stratégie où sont les 10% les plus émetteurs qui vont contribuer à ce fonds, eh bien, 46% des efforts viendraient des États-Unis. 15% de l'Europe et 11% de la Chine. Donc c'est quand même assez considérable. Mais cela dit, le fait de réintroduire les Chinois dans ce paquet ne dédouane pas pour autant les Européens et les Américains qui vont devoir augmenter leur contribution de manière massive.
Est-ce que c'est une redistribution au fond de l'effort climatique aussi en regardant les choses par ce prisme-là précisément des inégalités sociales?
Donc tout à fait, ça rebat un peu les cartes du jeu. Ça permet d'intégrer les classes moyennes et supérieures des pays émergents, mais encore une fois, l'essentiel de l'effort, finalement, reste chez les Américains et les Européens.
Eric Kempf.
Mais dans une logique où, et ça le travail reste peut-être au bord un peu de ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que ça implique que dans ces États, il y ait une contribution différenciée entre les très riches et les classes moyennes et les pauvres.
L'application de vos préconisations doit se faire État par État ou d'un point de vue global, international?
Alors, si on prend l'exemple de la proposition de la taxe sur les billets d'avion, bon, là, on a déjà, on peut partir de l'existant. Cette taxe existe déjà. Elle a été mise en place après 2005 pour financer des programmes de lutte contre les maladies. Une dizaine de pays appliquent déjà cette taxe. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de la généraliser, d'augmenter son niveau et de flécher les recettes à des fonds climat. Une autre option, ça peut être de taxer les revenus au niveau de chaque pays. Et ce qu'on montre dans l'étude, c'est par rapport au niveau d'émissions nationaux, quel revenu en France correspond à tel seuil d'émission. Alors, c'est une solution qui est imparfaite, puisque comme chacun sait, le revenu, c'est un plutôt bon prédicteur des émissions de CO2, mais ce n'est pas un prédicteur parfait. Donc, il y a des exceptions. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir les informations précises au niveau individuel sur les émissions de CO2, ce qu'on n'a malheureusement pas aujourd'hui.
Combien de milliards il faudrait à peu près pour participer à l'effort climatique vraiment à hauteur des enjeux?
Donc, ce que montre l'ONU, c'est qu'il nous faudrait 150 milliards. Mmh. Et aujourd'hui, au niveau mondial, on est à 10 milliards.
Oui, donc on en est très très loin. Hervé Kempf, certainement de nouvelles discussions aussi pour la COP21.
Hein. Oui, quand même, pas dans les 3 semaines, mais ça contribue à changer la donne et à dire il y a un problème social et il faut l'aborder sous ce prisme-là. Mmh. Deuxièmement, ça renforce tous les mouvements de la société civile qui disent justice climatique, justice sociale. On ne peut pas séparer la question sociale et la question climatique. Et puis très concrètement, quand même, des évolutions autour du fonds vert et du financement d'adaptation et d'atténuation. Et aussi la question du transport aérien qui est pour l'instant totalement en dehors des discussions, en dehors de la taxation, alors que c'est un contributeur de plus en plus important aux émissions de gaz à effet de serre.
Merci Lucas Chancel avec Thomas Piketty, donc cette étude qui vient tout juste de paraître, qui donne un éclairage effectivement très intéressant autour de cette question climatique. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu. Reporter.net, évidemment Hervé. La COP approche, hein, 3 semaines, et nous serons ensemble évidemment au Bourget pour suivre cet événement mondial. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, après la Suède et le Royaume-Uni, la greffe d'utérus est désormais possible en France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament vient d'en autoriser un essai clinique pour une équipe du CHU de Limoges. 8 femmes souffrant de stérilité utérine recevront en 2016 l'utérus de donneuses en état de mort cérébrale. En Suède, la greffe d'utérus issue de donneuses vivantes s'est concrétisée par la naissance d'un enfant en octobre 2014. Quant à la France, donc le premier bébé né suite à une greffe d'utérus ne devrait pas voir le jour avant 2018. L'e-sport va être reconnu comme un véritable sport. C'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État au numérique Axelle Lemaire, qui a dévoilé vendredi les principaux points de sa loi sur le numérique. La reconnaissance du jeu vidéo en ligne ou de tournois en réseau local comme sport traditionnel faisait partie des mesures les plus sollicitées par les internautes, avec plus de 100 000 participants. La secrétaire d'État a expliqué que ce nouveau statut va permettre au sport électronique de ne plus être assimilé au jeu d'argent en ligne, d'être légalement encadré et d'assurer la dynamique économique de ce secteur. Et puis pour assurer leur paternité, des araignées mutilent les organes génitaux des femelles. C'est ce que révèle une étude allemande qui a observé qu'après l'accouplement, les femelles de l'espèce sibérienne Larinia gescovi n'avaient plus leur scapus, une petite excroissance qui se trouve au-dessus des organes génitaux. En l'empêchant d'avoir d'autres partenaires sexuels, le mâle s'assure ainsi d'être le père de toute la progéniture. Cette perte d'organes pourrait être une aubaine pour les femelles. Les scientifiques cherchent notamment à démontrer qu'elles seraient ainsi moins harcelées par les autres mâles et qu'elles ne verraient pas leur fertilité entravée en stockant le sperme viable pendant des années.